La France bouge avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez pendant une heure. On va vous montrer que la France a des talents, des patronnes et des patrons qui surmontent la crise. Et vous avez des idées pour préparer déjà le monde de demain. Ensemble, on en parle avec vous Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag. Bonjour à toutes et à tous. Comment l'économie sociale et solidaire a été en première ligne pendant cette crise? Comment ce secteur peut-il lui aussi gagner des années? Bah oui, gagner notamment en visibilité avec cette crise, disons-le, historique. Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de toutes ces questions, est notre invitée exceptionnelle jusqu'à 14h.
À la une, l'économie sociale et solidaire au service des territoires. Comment attirer de nouveaux talents, de nouveaux habitants quand on vit en zone rurale? On a trouvé une start-up, Laou. Elle vous trouve l'emploi, elle vous aide à vous y installer dans cette zone où vous n'osiez peut-être pas y aller. Les détails d'ici quelques minutes.
Comment rendre aussi, Elisabeth, la santé accessible à tous? Banlieue Santé lutte contre les déserts médicaux en banlieue. Et son fondateur nous dira comment il a réussi tout cela. Ce sera aux alentours de 13h30.
Chaque jour dans la France bouge, nous écoutons le projet d'une entrepreneur ou d'un entrepreneur qui se lance. Le pitch du jour, Wicker, un réseau social qui lui aussi dynamise les territoires en rapprochant ceux qui ont envie d'agir pour leur ville. Les détails de ce projet à 13h45.
Et puis il paraît qu'on est vendredi. Et bien comme chaque vendredi, on a des offres d'emploi pour les jeunes là qui arrivent sur le marché du travail. Alors aujourd'hui, on n'en a que 50, mais vous allez voir, c'est sympa quand même. C'est où? Et ma réponse aux alentours de 13h50.
C'est ça, la France bouge. C'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Et oui, la France bouge également du côté des associations, de toutes ces start-up, de toutes ces initiatives qui se lancent et qui se sont peut-être même encore renforcées, même si cette crise a été très 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 compliquée. Pour eux aussi. On va en parler avec notre grand témoin du jour jusqu'à 14h.
Bonjour Olivia Grégoire.
Bonjour à vous.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Votre portefeuille, ce sont les associations, mais aussi les start-up qui servent l'intérêt général. Cette économie sociale et solidaire qui représente un peu plus de 10% du PIB. L'économie sociale et solidaire, Olivia Grégoire, on peut la qualifier d'économie de la débrouille. Mais elle est en train de se professionnaliser. Elle a trouvé des solutions, notamment grâce à la crise. Comment et comment ça va?
Ça va très bien, si c'est la question que vous m'adressez personnellement. D'abord, pour vous dire le plaisir que j'ai, je le répéterai peut-être, mais à être votre invitée aujourd'hui, je vous écoute tous les vendredis, c'est un rituel au cabinet. C'est pas tous les jours qu'on a un média aussi important qui, comme vous le faites dans votre émission, Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil, mais la lumière sur ce qui marche dans notre pays, sur cette France qui bouge, et en fait la France qui bouge, c'est celles et ceux qu'on va entendre dans quelques minutes. Je ne fais que modestement les accompagner, et merci de m'avoir permis de leur dire tout ce qu'on leur doit.
Merci à vous, Olivia
L'économie
Grégoire.
L'économie sociale et solidaire, vous l'avez super bien dit, c'est une économie de la débrouille, ça l'a été pendant très longtemps, mais c'est une économie, et les jeunes femmes et les hommes qu'on a autour de nous, nous le prouveront, qui va de mieux en mieux, qui est en train de passer des caps, de passer à l'échelle. On a là une économie sociale qui a beaucoup souffert, en partie, pendant la crise. Je pense aux associations. On a à peu près 5000 associations dans notre pays qui sont en risque de disparition. C'est pourquoi le gouvernement essaye de toutes ses forces, et j'y contribue, de les aider, aussi bien dans cette conjoncture que de façon plus structurelle. Mais nous avons aussi, dans cette économie sociale, des jeunes entreprises qui n'ont pas forcément le statut, nous en parlerons, de l'économie sociale. On n'est pas obligé d'avoir le statut.
Justement, déjà, pour qu'on ait une bonne idée de ce à quoi ça correspond vraiment. C'est quoi les entreprises de l'économie sociale responsable solidaire?
C'est très simple, mais ça va mieux en le disant. Dans cette famille de l'économie sociale, il y a 5 membres. Les associations, les mutuelles, les fondations, les entreprises d'utilité sociale, ESUS, qui ont un agrément ESUS, et les coopératives. Pour vous donner une idée, ça représente effectivement, vous l'avez dit Elisabeth Assayag, un peu plus de 10% du PIB, mais ça représente plus de 2 millions d'actifs dans notre pays. Je prends un ou deux exemples. Vous avez 8 établissements d'enseignement culturel, aussi bien la danse que la musique, que le théâtre, qui sont aujourd'hui des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Vous avez 54% des mutuelles santé, des complémentaires santé qui sont des mutuelles, et quand on conduit une voiture, ou une moto, c'est 3 sur 5 d'entre nous qui sont assurés par aujourd'hui une mutuelle. Donc ce sont des acteurs qu'on voit partout dans notre vie quotidienne.
Voilà, et c'est ça le plus important. Ce sont des acteurs du quotidien qui, plus que jamais, on pense aux associations, mais on pense également à toutes ces start-up qui se sont créées pendant cette crise. Comment vous les définiriez ? On va en revenir après aux difficultés, mais voyons le verre à moitié plein. Ils ont été indispensables pendant cette crise et peut-être qu'eux aussi ont pu accélérer des projets dans la confraternité ou ce genre de choses.
Alors, au même titre qu'il y a 5 membres dans la famille, il y a 3 grands principes dans l'économie sociale et solidaire que je voudrais rappeler. 1, quand on monte une structure d'économie sociale et solidaire, on ne la monte pas que pour la valeur financière, on la monte au nom des valeurs humaines, sociales, solidaires. Et donc, on a au cœur de l'ESS ce qu'on appelle le principe de lucrativité limitée. Et vous verrez d'ailleurs dans celles et ceux qui vont parler après moi, qui ne font pas ça pour gagner de l'argent ou uniquement pour gagner de l'argent. Ils font ça pour avancer la société, pour faire avancer la société et nous aider dans notre cohésion sociale. Deuxièmement, deuxième grand principe, on partage la valeur qui est créée dans l'économie sociale et solidaire. Un des bons exemples à regarder, par exemple, sont les coopératives. Vous avez le partage des ressources et de la valeur ajoutée avec les membres de la coopérative. Et vous avez aussi, troisième grand principe qui est important de rappeler, au-delà du partage de la valeur, le partage du pouvoir. Pareil, je reste sur les coopératives, un homme, une voix. C'est-à-dire que vous avez beau être salarié classique, basique, vous avez votre mot à dire au même titre que le patron. C'est important, ces nouveaux types de gouvernance. Elles sont anciennes, elles reviennent terriblement à la mode aujourd'hui, en contexte de crise.
Alors, vous l'avez dit, Olivia Grégoire, ces entreprises, ce ne sont pas seulement des entreprises dans lesquelles on gagne que de l'argent.
Si on en gagne aussi,
elles
c'est important.
Elles font avancer la société. Cette crise a créé des initiatives inédites.
Remarquables.
Lesquelles ?
Alors, vous avez à la fois des initiatives qui se sont créées, je dirais, à cause de la crise. Mais moi, ce que j'ai surtout remarqué, c'est à quel point les structures de l'économie sociale et solidaire se sont déployées et ont démultiplié leur action durant cette crise, notamment en s'entraidant entre elles au service d'une action sociale. Je pense par exemple, et on y reviendra, à Banlieue Santé, puisqu'ils auront le plaisir d'intervenir, avec un grand groupe qui travaille dans l'agroalimentaire, je ne vais pas trop donner de marque, mais nous sommes mobilisés avec des associations, avec un autre acteur de l'ESS, que je vais aussi citer, qui s'appelle Phoenix.
Nous connaissons bien, dont le dirigeant est Jean Moreau et qui a été l'un des coachs de la France Bouge.
Et qui est un de ceux qui font bouger la France. Et bien, vous voyez, on s'est rassemblés à la période de Noël parce qu'il y avait des denrées qui étaient périssables, des chocolats, des confiseries, que d'habitude on achète quand on prend son train ou son avion pour aller voir sa famille. Et là, comme on a tous été confinés lors de Noël, tous ces petits plaisirs qui sont dans des boutiques d'aéroports ou de gares. Eh ben, on est allé les chercher et grâce à Phoenix, Banlieue Santé et d'autres associations, on est allé la distribuer et les amener à celles et ceux qui souffraient. Voilà une initiative qui a été créée par les acteurs de l'ESS. Je n'ai fait que les encourager et les soutenir et qui est vraiment née, je dirais, de leur spontanéité, de leur agilité. On parlait de débrouille au démarrage. J'ai envie de parler d'agilité parce qu'on parle de plus en plus d'agilité dans les startups. C'est plus que de la débrouille, là. Ils savent rebondir, ils savent être réactifs. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce type d'exemples depuis un an et demi, depuis le confinement et depuis la période de crise sanitaire.
De la débrouille, de l'agilité, des associations, des start-up au service de l'intérêt général. On va continuer à parler de tout cela avec vous, Olivia Grégoire. Vous êtes la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Et vous restez avec nous.
Europe 1.
Et il est 13h18.
À suivre, l'économie sociale et solidaire au service des territoires. Comment repeupler les zones rurales ? Une start-up aide les collectivités, elle fait venir des talents et même elle les aide à s'y installer.
Oui, et elle a un nom trop sympa, ça s'appelle Laou et on va voir comment ils font justement pour aider ces collectivités. Et on l'entend depuis le début de cette émission, bien sûr qu'elle bouge cette France, qu'elle est solidaire, qu'elle est agile dans cette période de compliqué. On en parle avec notre invitée exceptionnelle du jour, Olivia Grégoire, qui est la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Alors, avoir envie de s'installer dans une ville, oui c'est sympa, mais pour ça souvent il faut avoir du travail. Comment trouver justement ce poste ? Nous, on a en partie trouvé la solution.
Bonjour Charlotte Drault.
Bonjour.
Vous êtes la responsable commerciale de chez Laou. Laou, c'est une start-up. Elle est française. Elle existe depuis 4 ans. Elle est née à Clermont-Ferrand. Et ce n'est pas un hasard parce que Clermont-Ferrand, c'est un territoire très innovant dans toutes ses initiatives. Votre mission chez Laou, c'est d'attirer de nouveaux habitants et vous aider les territoires qui ont des besoins spécifiques. tout est parti d'un constat que l'on a tous fait hein, pendant cette année, hein, notamment écoulée pendant les confinements. On s'est tous dit...
On partait loin de Paris.
Voilà, exactement. Tiens, si on prenait une maison un peu plus grande, avec un loyer peut-être équivalent, mais avec plus de place. Et c'est comme ça qu'est née la OU, c'est-à-dire que vous vous êtes dit, on va aider les personnes à franchir le pas, et puis surtout, on va aider aussi les collectivités à recevoir des talents. Comment la OU travaille avec les territoires ?
Alors, comment est-ce que la OU travaille avec les territoires ? Nous, on est une petite équipe, hein, une plateforme qui est donc au service de l'attractivité des territoires, vous l'avez bien dit. Comment on travaille ? On a une méthode qui est très opérationnelle, en fait. Hein. C'est vraiment l'idée de pouvoir attirer des publics en pénurie dans les villes petites et moyennes, voire en ruralité. Et puis de pouvoir accompagner, comme vous l'avez bien dit, ces talents-là, ces personnes-là, finalement, à franchir le pas. Donc, comment est-ce qu'on travaille ? Très simplement, on va aller s'adresser, chercher ces personnes-là sur le web. On va les accompagner ensuite, une par une, dans la mise en place.
Et ça veut dire quoi, aller les chercher sur le web ? Par exemple, vous regardez tous les profils LinkedIn de gens en disant « Tiens, on a besoin de vous à Rodez, on a du job, on a une belle maison à Rodez pour vous, venez ». Comment ça
Alors,
se passe ?
En fait, quand on travaille avec un territoire, donc ça peut être un département, une commune, on travaille vraiment à différents échelons, hein, on va définir avec ce territoire justement la population un petit peu dont ils peuvent avoir besoin. De quelle population
Par
on parle ?
Exemple.
Ça peut être des salariés, des salariés dans l'industrie, des salariés dans l'informatique, ça peut être des petits artisans, des petits commerçants, ça peut être évidemment des médecins, on en reparlera tout à l'heure avec l'autre invité, etc., etc. Donc chaque territoire a finalement comme ça un petit peu des trous dans la raquette, dans son économie, des cadres, voilà.
Et donc là, ils vous contactent. Prenons l'exemple de Rodez. Je ne sais pas si vous avez ça sur votre plateforme,
mais
je, bon, pourquoi je pense à Rodez, c'est
par
ailleurs très joli.
Peut-être.
On arrive à Rodez. Rodez se dit tiens, j'ai une usine qui se monte, j'ai des logements qui sont vacants et j'ai besoin de 12 ouvriers, on va dire. Okay. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est là que vous intervenez.
C'est là qu'on intervient, exactement. Déterminer avec le territoire les atouts qu'ils ont pour pouvoir accueillir ces personnes, pouvoir un petit peu faire le point comme ça sur la situation du territoire. Ensuite, essayer d'aller promouvoir le territoire, du coup, comme je vous le disais, sur le net, de manière
très ciblée. C'est quoi sur le net ? C'est sur des réseaux sociaux ?
On fait des campagnes, des campagnes de publicité sur les réseaux sociaux, effectivement.
Venez tous à Rodez, on recherche, je ne sais pas, des cadres en informatique.
On va toucher les personnes là où elles sont. Aujourd'hui, les personnes, elles sont où ? Elles sont effectivement sur les réseaux sociaux, elles sont sur des job boards, des job boards pour rechercher un emploi. Elles sont comme ça un petit peu partout, mais essentiellement via le digital. Donc, on va aller leur parler via le digital. Notre activité...
Mais comment vous rentrez en contact avec elles ? C'est-à-dire que vous envoyez un mail, vous envoyez un message privé si c'est sur Facebook, si c'est sur LinkedIn, vous vous présentez comment ?
Alors, nous, les campagnes que l'on fait, elles sont massives. C'est-à-dire, quand vous êtes sur votre fil d'actualité Facebook, vous le savez, des publicités, des publications qui sont sponsorisées, etc. Comment on fonctionne ? Il y a par exemple, c'est un exemple très concret que je vous donne, hein, un groupe d'intérêt sur Facebook de gens qui sont intéressés par la vie en région, qui sont intéressés par le patrimoine, qui sont intéressés par la nature, etc., etc. Ces gens-là, du coup, on est capable de les cibler aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux et d'aller leur afficher, du coup, très sincèrement, très, très clairement, la proposition d'accueil du territoire.
C'est là où qui vient ou c'est le territoire ?
C'est nous-mêmes qui faisons l'action pour mettre en valeur le territoire.
Mais et là, ça marche en ce moment ? Vous voyez des gens ? Parce que tous les chiffres commencent à le montrer. Hein. Les notaires, là, très récemment, ont fait une étude pour dire oui, il y a bien une partie assez notable de la population des grandes villes qui part un peu plus loin. Vous le vérifiez chez vous ?
Bien sûr, on le vérifie. Aujourd'hui, il y a à peu près 25 millions d'habitants qui vivent dans des communes qui sont densément peuplées. Et pour prendre l'exemple des Franciliens, on en a 54%, une étude de Paris Je te quitte, hein, vous pourrez aller voir sur Internet, qui souhaitent aujourd'hui quitter Paris. Ces 54%, ils étaient seulement 38 avant la crise sanitaire.
Et vous les accompagnez pour vous avez trouvé des endroits ils vont où en général aujourd'hui les Parisiens ?
Les Parisiens, en fait,
pour quel métier ?
Ça serait difficile de généraliser parce que, eh bien, ça reflète en fait la diversité des projets des Français. Certaines personnes vont vouloir rester dans une métropole, d'autres dans des territoires plus ruraux, etc.
Ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi lancé l'AOU médical. Là, on est vraiment dans l'air du temps, hein, dédié aux médecins, aux professionnels de santé. On y pense bien évidemment à toutes ces petites villes qui sont en manque de médecins et qui pourraient là enfin réussir à attirer les professionnels
Exactement.
Dont ils ont besoin ?
Exactement. Que ce soit pour la OU médicale ou pour les autres métiers, notre accompagnement, il est opérationnel. Chaque personne touchée va être accompagnée un par un, chaque projet mis en relation avec le territoire pour pouvoir l'accompagner opérationnellement dans son installation.
Opérationnellement, ça veut dire le métier,
ça veut dire
la maison,
job,
l'école
Ça veut dire exactement trouver une maison, trouver un job, être en relation par exemple avec les chambres consulaires si vous êtes porteur d'un projet. Ça va être mettre en relation avec les acteurs de la ville pour pouvoir vérifier les aspects du cadre de vie, etc. Donc non seulement on va les chercher, mais on les accompagne un par un jusqu'au territoire et effectivement on lance l'AOMED pour s'attaquer à cette population de médecins. Qui est aussi pénurie.
Olivia Grégoire, vous êtes notre grand témoin du jour. Hein. Vous êtes la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Alors, on le voit avec l'AOU, c'est avec cette start-up, de plus en plus de territoires ont plus de besoins, ont davantage de besoins que d'autres. Il faut faire venir du monde, il faut faire venir en particulier des talents. Comment vous accompagnez cette démarche aussi ?
Déjà, vous rappelez que l'économie sociale et solidaire, même si j'adore Paris, surtout là où vous êtes, puisque c'est un très bel arrondissement.
C'est dans le 15e arrondissement.
J'ai même pas dit.
Vous êtes députée de Paris, pour ceux qui le sauraient.
C'est pour nos auditeurs.
Mais je suis une ancienne députée de Paris qui aujourd'hui est au service de l'économie sociale et solidaire. Cette économie, c'est une économie des territoires. C'est pas un truc de parisien, pas un truc de bobo, pas un truc de baba. C'est aujourd'hui une économie qui est vraiment dans les territoires. Et comment accompagner ce que fait l'AOU, et j'ai une ou deux questions si vous m'autorisez, parce que je trouve ça top. Déjà, ce qu'on fait, c'est que moi, j'essaie de mettre des moyens à disposition, et j'y reviendrai. Il y a peut-être un nouveau type de job que l'AOU pourrait nous aider, nous, État, qui ne sommes pas toujours aussi agiles que vous, parce que ça relève quasiment du service public, ce que fait l'AOU.
Oui, c'est, bah, de l'intérêt général.
C'est pour ça qu'ils sont là avec vous. C'est pour montrer qu'il y a des associations, des start-up qui sont complémentaires.
Ils le font mieux et avec parfois plus d'agilité que l'État, même si l'État essaye de progresser. Mais on n'a pas votre agilité. J'ai aussi envie de vous parler rapidement des parcours emploi compétences, qui sont un autre type de job. Vous avez annoncé, c'est pas rien, que vous allez parler d'une cinquantaine d'emplois à pourvoir à la fin de l'émission. J'en amène à peu près 40 000 de plus lors de cette émission à midi, pour les jeunes notamment, mais pas que. Les parcours emploi compétences, ce sont des emplois qui sont accompagnés par l'État jusqu'à 80% dans les quartiers prioritaires de la ville et dans les zones rurales, et qui permettent aux acteurs de l'ESS, aux associations, aux coopératives, aux mutuelles qui ont besoin de ressources humaines, d'avoir des ressources. Et ça permet aux gens qui bénéficient de ces emplois très aidés par l'État, entre 60 et 80% de subventions d'État, de pouvoir bénéficier d'une formation minimale gagnant-gagnant, des ressources, des bras, des cerveaux, des intelligences pour les acteurs de l'ESS et pour ceux qui cherchent aujourd'hui une formation, et Dieu sait si nos jeunes en ont besoin, des emplois accompagnés dans des métiers d'aujourd'hui et de demain au service des autres. Ça peut être un nouvel onglet, je dirais, du travail de l'AOU. Et en tout cas, je me permets d'en parler parce que...
Vous avez bien fait d'en parler, Charlotte Drou. Je crois que vous avez accompagné 250 talents en Corrèze.
Exactement.
Ça,
oui.
Voilà. Ça, c'est une réussite. Merci en tout cas d'être venue dans la France Bouge. Je rappelle que vous êtes l'une des dirigeantes de l'AOU. Vous aidez les collectivités à attirer habitants, de nouveaux talents sur le territoire.
Et Olivia Grégoire, elle a beaucoup de choses à dire et on va la garder justement nous jusqu'à 14h. C'est la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable.
Europe 1. 13h29, trouver un médecin partout en France et notamment à la périphérie des villes.
On vous en parle depuis le début de l'émission. Chaque invité dit que c'est top. Alors, il va pas falloir se voir maintenant, banlieue santé. Hein. Et oui, bien sûr, quelle bouchée de France. Et comme chaque jour, on est très heureux avec Elisabeth de vous accompagner en direct du lundi au vendredi de 13h à 14h dans La France Bouge. Aujourd'hui, une émission consacrée à l'économie sociale, solidaire et responsable avec notre invité exceptionnel, Olivier Grégoire, qui est la secrétaire d'État en charge de toutes ces questions.
Et on le constate, pendant la crise, les inégalités s'accentuent, hein, notamment face au Covid. Hein. Les quartiers ont été mis à rude épreuve. Logement étroit pour certains, difficultés d'accès aux tests. Alors, des associations agissent pour raccorder les habitants fragilisés et la santé. C'est ce que vous faites, Abdelali El Badaoui. Bonjour.
Ouais. Bonjour, merci Elisabeth.
Merci à vous d'être en direct dans La France Bouge. Vous êtes le président fondateur de Banlieue Santé. C'est une association qui lutte contre les déserts médicaux en banlieue, en zone rurale. Plus de 500 bénévoles travaillent avec vous. Et si vous le voulez bien, Abdelali, impossible de parler de votre initiative sans s'arrêter un instant, si vous le voulez bien, sur votre histoire qui nous a profondément touchés à La France Bouge. Quand vous aviez 6 ans, votre corps a été brûlé à 70% suite à un accident. Vos parents sont analphabètes, ils viennent du Maroc, et vous aviez déjà senti une forme de désarroi au moment où vous êtes arrivé à l'hôpital et où ils ne comprenaient pas grand-chose finalement à ce que vous disaient les médecins.
Oui, effectivement, c'est quelque chose qui m'a marqué, qui a fait aussi...
Ce que vous êtes aujourd'hui.
Voilà, aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui professionnel de santé, et donc j'ai décidé d'agir en créant une organisation justement pour raccorder tous les patients au système de santé et au droit commun. Il faut rappeler une donnée très importante aujourd'hui en France, en 2021, il y a à peu près 10 à 11 ans d'écart d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre sup. Notre travail à nous, en tant qu'organisation, c'est de lutter contre les inégalités sociales en créant des solutions d'innovation sociale, en partant du besoin de terrain. Parce qu'aujourd'hui, on pense que les habitants sont les solutions de leurs problèmes. Et donc notre enjeu à nous, c'est d'aller les chercher, aller chercher ces personnes en angle mort et les accompagner pour avoir accès à la santé.
Et vous avez une légitimité parce que après toutes ces épreuves, vous êtes devenu infirmier. Hein, dès l'âge en 2012, vous êtes devenu infirmier libéral. Et donc là, vous vous êtes dit, je vais faire quelque chose pour agir contre ces inégalités sociales. 2018 est né Banlieue Santé.
Ouais, exactement. 2018 est né Banlieue Santé. Banlieue Santé qui veut dire lieu banni, la mise au ban. C'est toutes celles et ceux qui sont loin du système de soins et loin du droit commun.
Mais de façon très concrète, comment ça marche? Et peut-être aussi, parce que ça c'est important, comment on peut vous aider, là, tout ce qu'on en est?
Alors comment ça marche? C'est assez simple. Nous, on va aller au plus près des habitants, les identifier, créer avec eux, je dirais, ce confort et cette réflexion ensemble pour créer la solution qui soit la plus adaptée. On a monté un programme qui s'appelle Vu et Corrigé. On emmène un certain nombre de publics à la Fondation Rothschild. Dans la même journée, ils ont une consultation ophtalmo et avec un appareillage en lunettes. C'est très concret, c'est très direct et ça permet vraiment de sortir les habitants de cette précarité aujourd'hui sanitaire qu'ils peuvent vivre.
Là, vous nous avez donné un exemple, mais je crois que vous, ce qui vous tient à cœur, c'est que vous avez une démarche holistique, comme vous dites, hein, c'est-à-dire une démarche globale dans la prise en charge de la santé pour toutes ces personnes qui n'y ont pas forcément accès. C'est quoi alors? Donc, concrètement,
c'est très important pour nous parce que il faut réfléchir de manière très holistique. La santé, ce n'est pas uniquement l'absence de symptômes et de maladies. La santé, c'est un état de bien-être social, mental et physique. Et donc, par conséquent, pour nous, l'emploi, la culture, le sport, le bien manger, tout ça, c'est la santé. Parce que le premier déterminant de santé, c'est l'alimentation.
D'ailleurs, à propos du bien manger, au moment où la crise a commencé, lors du premier confinement, vous avez agi là, très concrètement sur des livraisons de repas. Vous avez fait attention à tout ça.
Effectivement, on a agi sur la partie du colis de confinement, des colis alimentaires qui étaient équilibrés. Donc, on a aussi agi sur la partie hygiène avec des grands groupes, hein, Lagardère, L'Oréal, mais d'autres aujourd'hui qui nous ont soutenus, BNP. Et c'est vrai que c'était aussi un enjeu fort pour nous, c'était de permettre à ces publics-là de réussir le confinement par l'alimentation, par l'hygiène, mais aussi par la possibilité de continuer à aller voir leur médecin parce qu'il y avait...
Mais comment vous trouvez ces gens qui ont tant besoin justement de la santé? C'est-à-dire que ce sont d'autres associations qui font appel à vous ou c'est vous qui allez sur place les chercher et leur dire il y a des solutions, il faut absolument aller se faire soigner parce que votre vie en dépend et votre espérance de vie en dépend?
C'est toute la volonté de Banlieue Santé, c'est travailler avec les acteurs d'hyper-proximité, de les former, de faire en sorte qu'on ait un certain nombre d'associations qui soient formées aux questions de santé. D'ailleurs, on a formé près de 200 ambassadrices et ambassadeurs Covid sur les territoires. Et ça, c'est une vraie force pour nous d'aller identifier ces publics-là.
Et aujourd'hui, vous êtes présent
partout en France. Et on va aller chercher les États-Unis, l'Afrique bientôt.
Oui, parce que vous avez reçu le prix citoyen européen en 2020. Et donc là, vous êtes sollicité pour vous implanter dans d'autres
exactement.
Pays.
Mais ça veut dire quoi, aller chercher les États-Unis? C'est-à-dire que vous allez déployer votre modèle dans les banlieues américaines.
Exactement.
Et vous allez faire la même chose. Alors là, ça va encore coûter plus cher pour la santé, mais c'est peut-être encore plus urgent que chez nous. Mais il y a du taf en tout cas là-bas.
Il y a du travail, mais on va le faire avec le cœur.
Olivia Grégoire, je rappelle que vous êtes notre invitée exceptionnelle, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Là, on le voit, une association qui cartonne, qui fait du bien, qui est dans l'exigence et qui est totalement essentielle. Vous le disiez tout à l'heure, ces associations, elles ont connu beaucoup de difficultés pendant la crise, notamment parce qu'elles ont manqué de financement. Certaines parce que des entreprises ont moins donné d'argent, d'autres parce que, pour le sport par exemple, les cotisations ne sont pas rentrées. Comment, de façon très concrète, on fait en sorte qu'elles aient de la trésorerie, qu'elles aient de l'argent pour survivre?
Alors, je vais être très très concrète, je le promets. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais moi quand je regarde Abdelali El Badawi, déjà, j'ai les yeux qui brillent. La France qui bouge, c'est eux. Chapeau bas. 250 000 repas distribués pendant le confinement, 31 500 kits d'hygiène, l'équipement de 500 personnes pour les lunettes dont vous venez de parler, et une appli qui permet de traduire. La langue est un obstacle à la santé, vous le dites beaucoup mieux que moi, en 50 langues, les mesures sanitaires pendant la Covid. Chapeau bas, vous faites partie de ceux qui mettent des lumières dans notre pays, et je veux juste leur rendre hommage vraiment fort.
Vous avez tout à fait raison, parce que
deuxièmement, je réponds très vite sur la deuxième question qui est tout aussi importante, mais... vraiment chapeau bas. On parle beaucoup de résilience. Voilà un résilient. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est un vrai résilient.
Et vous faites la fierté de notre pays, puisqu'en plus de ça, vous allez implanter votre modèle dans d'autres pays.
Mais pour justement que ces associations qui sont si indispensables, dont on parle depuis le début de cette émission, poursuivent leur mission, comment on fait pour leur apporter de l'argent ?
Trois choses. Très court terme, moyen terme, long terme.
Allez,
très
court terme.
Vous me l'accorderez, avant la relance, pour aller chercher des sous de la relance, encore faut-il être en vie. On a 5 à 10 000 associations qui sont en danger de mort, je vous l'ai dit. Un site web, et je sais que je peux compter sur Europe 1, un site web, urgence au singulier-ess.fr. Une aide directe pour les associations petites qui sont dans la galère, moins de 10 salariés, qui peuvent obtenir jusqu'à 8 000 euros, c'est de l'aide directe, c'est de la subvention en 15 jours. C'est simple comme bonjour, ça paraît peu, c'est beaucoup pour une asso. 5 à 8 000 euros, on peut passer un mois ou deux mois de trésorerie et on peut ensuite aller chercher les sous de la relance. Deuxièmement, le plan France Relance. Il y a au moins 200 millions d'euros qui sont déjà sur la table pour les associations de lutte contre la pauvreté ou les associations d'hébergement d'urgence. Deux grands appels à projets de 100 millions d'euros chacun. Le premier appel à projet pour aider les associations de lutte contre la pauvreté est déjà en train de décaisser, au moment où je vous parle, 50 millions d'euros. Très concrètement, ça m'a permis d'apporter 400 000 euros à une association Paris 3e, La Chorba, qui offre des repas gratuits aussi à celles et ceux qui souffrent et qui galèrent dans Paris.
Mais là, il faut postuler pour ces associations
et là,
pour en bénéficier.
Vous avez toutes les infos sur le site web de mon secrétariat d'État. Vous tapez ESS, vous arrivez sur le site de Bercy. Pour ceux qui n'y arriveraient pas, excusez-moi de donner autant d'adresses, mais c'est important. Vous allez sur france-relance.gouv.fr, vous tapez économie sociale et solidaire et vous avez tous les appels à projets qui arrivent. Malheureusement, je ne maîtrise pas encore l'intégralité de la charte graphique de l'État, sinon j'aurais fait plus simple. Mais je vous jure que les infos, on les trouve. On candidate à l'appel à projet. En 2-3 mois, on sait si on a gagné et on a les sous qui arrivent. Troisièmement, il faut penser long terme. Ce n'est pas uniquement les crédits du fonds de relance qui permettront de mettre à mal le problème de la trésorerie de nos associations. Une proposition de loi arrive le 12 mai, portée par Sarah El Haïry au Sénat pour améliorer la trésorerie des assos. Moi, je bosse très concrètement sur les fonds propres des associations. Il y a des prêts participatifs pour les entreprises. Je demande à la Caisse des dépôts, mais aussi à la BPI qui travaille avec moi, de permettre de renforcer les fonds propres de nos associations qui, le cas échéant, à la prochaine crise, connaîtront les mêmes soucis.
Là, quand vous dites « je travaille avec » et que vous le dites à l'antenne, c'est une manière de leur mettre la pression en disant « les gars, allez-y ».
Non, j'ai pas besoin, je vais vous dire. Moi, j'adore mettre la pression et tout le monde le sait, mais quand j'ai des interlocuteurs d'État qui sont à la hauteur, je le dis aussi. J'ai pas à convaincre la Caisse des dépôts et consignations de se mobiliser pour les assos. Je peux vous dire qu'elle le fait. J'essaie juste de faire en sorte qu'on trouve des structurations financières, sans être trop casse-pieds, qui permettent de consolider la trésorerie des associations et de les laisser moins au gré des vents et de la conjoncture et des crises. Donc c'est un travail en profondeur. Et l'idée, c'est possiblement, par exemple, de proposer aussi aux Français d'aller mettre des soutiens financiers dans les assos via des titres participatifs. On est en train de travailler et je ferai, je l'espère, des propositions. Après l'été, on travaille dessus.
Abdelali El Badawi, vous avez aussi lancé le Café des Femmes. Hein. Ça aussi, c'est une excellente, une très très belle initiative. On les trouve où, ces Cafés des Femmes ?
Alors, effectivement, d'ailleurs, je les salue parce qu'ils nous écoutent, ces femmes, aujourd'hui. Elles sont aujourd'hui, le premier Café des Femmes va être lancé à Clichy-la-Garenne, avec le soutien du groupe et de la Fondation L'Oréal. En plein cœur de Clichy-la-Garenne, on va accompagner un certain nombre de ces femmes.
On les accompagne dans quoi ? On y trouve quoi dans ces cafés de femmes ?
L'enjeu pour nous, c'était de se dire comment on fait en sorte que notre travail aujourd'hui de banlieue santé soit holistique. Et donc pour nous, les premiers mois, ça va être la question de l'estime de soi. Puis après, on va pouvoir vraiment accompagner ces femmes sur la question sociale. Et derrière, les accompagner vers l'insertion professionnelle et la formation. Donc il y a un enjeu pour nous.
Un vrai enjeu. En tout cas, c'est absolument passionnant et c'est surtout que c'est un modèle qui plaît, hein, cette association Banlieue Santé. Merci à vous, Abdelali El Badawi, d'être venu nous la présenter dans La France Bouge.
Et Olivia Grégoire, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et responsable, on vous garde avec nous jusqu'à 14h. Et là, on va même vous faire un petit peu changer de rôle. Hein. Vous allez mettre votre casquette de coach, mais vous connaissez bien parce que vous faites partie de ces ministres qui viennent du monde de l'entreprise.
Europe 1.
13h42 sur Europe 1. Le pitch du jour donc, ça s'appelle Wicker.
Bah oui, on reste dans le thème, c'est un réseau social des territoires, là encore, pour faire bouger les lignes. À tout de suite. Ah, ça fait du bien quand tout le monde se bouge. On est très heureux, hein, comme chaque jour, de vous accueillir avec Elisabeth. Et encore plus peut-être pour le moment de ce pitch, hein, nos pépites de demain, avec aujourd'hui comme témoin du jour Olivia Grégoire, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Et bien évidemment, hein, notre fée à nous qui se bouge chaque jour, Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie, dont les oreilles sont déjà toutes pointées.
Et oui, on vous le montre, chaque jour dans la France bouge, des personnes qui osent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui se disent « c'est pas grave, il y a la crise, mais moi, j'y vais et je me lance ». Bonjour Dylan D.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de Wicker, vous avez 35 ans et vous avez lancé un réseau social local qui dynamise les territoires. Vous rapprochez, tiens, j'ai très envie de bouger, avec ceux qui bougent déjà, en gros, hein, j'essaye de faire simple. Tout est parti de votre propre histoire, tout a démarré, je crois, lors d'une fête de voisins. Elle se passait où, cette fête ?
Dans mon quartier, en fait, à Donges, dans un petit village à côté du centre-ville.
Voilà, donc il n'y avait pas grand-chose autour, enfin, c'est ce que vous pensiez. Et pourtant, bah tiens, on va vous laisser nous raconter Wicker. C'est parti pour votre pitch, vous avez une minute.
Donc bonjour, Dylan Dehaye, donc fondateur du réseau local Wicker. Donc Wicker qui est la contraction de Wiki pour plateforme collaborative et donc de Care pour village, lieu de vie en breton. C'est un projet en fait qui est né d'un constat, c'est que souvent les riverains se plaignent de vivre dans une ville dortoir ou dans un quartier dortoir. Et pourtant, quand on cherche bien sur Internet, on se rend compte que les associations, les commerçants, les citoyens font énormément de choses pour bouger leur coin. Donc on a décidé de créer un espace commun pour pouvoir rassembler l'ensemble de ces informations et les rendre ainsi plus accessibles aux riverains pour les encourager à consommer, sortir, s'investir localement et ainsi promouvoir le développement durable de nos territoires. La particularité de Wicker, c'est que pour nous, le local ne doit pas se faire à distance et surtout le numérique doit servir l'humain et pas l'inverse. Donc chaque plateforme va être animée par un ambassadeur local, une sorte de franchisé Wicker qui va relayer les informations locales et accompagner et conseiller les associations, les commerces, les acteurs du territoire dans leur communication et leurs outils. Donc si vous voulez en savoir plus, on organise un webinaire jeudi prochain et vous pouvez vous inscrire depuis notre page Facebook Wicker.
Et ben voilà, déjà bravo Dylan pour ce pitch, on a tout bien compris ce que fait Wicker.
Oui, merci à vous Dylan. Alors je vous présente notre fée, hein, Nathalie Carré, chargée de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Dylan, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors Nathalie, vous avez analysé Wicker, quelles sont les forces et les faiblesses, s'il y en a ?
Oui. Alors effectivement, les forces, déjà, un vrai besoin des Français de plus de proximité, plus de local et de s'impliquer dans l'action locale. Donc effectivement, il y a un vrai besoin de plus d'à côté de chez soi. Et l'histoire de la plateforme dont vous venez de raconter brièvement, ça montre que ça vient d'une expérience de terrain, donc ça donne du crédit à votre projet. Et puis évidemment, les ambassadeurs et ce côté collaboratif de la plateforme, ça permet vraiment de partir du besoin des habitants locaux. Alors, deux points améliorés. En fait, on peut se dire, quand on découvre la plateforme, mais finalement qu'il y a déjà le site de la mairie ou son compte Facebook quand il y en a, il y a déjà Google Business par exemple, donc il faudrait plus expliquer pourquoi vous avez réuni tout ça, vous venez de le dire, hein, dans le pitch, mais plus l'expliquer, plus marquer votre différence. En fait, vous mettez tout au même endroit, en fait vous additionnez tout ce qui existe au même endroit. Et puis le site, l'utilisation de la carte n'est pas si simple, on voit qu'il y a 7 quelque chose à côté de Nantes, puis quand on clique sur le 7, on arrive sur des territoires verts.
Il y a plein de choses à côté de Nantes. Attention, on critique pas ma ville. Hein.
Aïe, mince, j'aurais dû prendre Charleville-Mézières, alors du coup.
Rodez.
Rodez.
Du coup, il faudrait expliquer un peu plus, effectivement, parce que parfois, il y a des infos, parfois, il n'y en a pas, et c'est compréhensible, hein, qu'il n'y ait pas d'infos. Mais du coup, expliquer pourquoi, et puis surtout, motiver l'internaute qui arrive sur cette page vise à s'inscrire et à créer du contenu, à devenir ambassadeur. Donc, et puis, un dernier point de détail, donc, vous dites qu'il y a un mode d'emploi, enfin, il y a plusieurs modes d'emploi. Parlez plutôt de vos offres qui présentent les offres, les tarifs, puisqu'il y a quand même un aspect payant que Emmanuel n'a pas repéré. Je suis fort étonnée.
Mais parce que j'attendais la fin, parce que je voulais faire le lien avec Olivia Grégoire, mais vous me piquez tout, okay. Donc je vais faire mon travail. Le service est gratuit pour les associations, c'était ça mon lien. Et en revanche, vous faites payer effectivement les commerces et les municipalités, si je ne dis pas d'annerie.
Alors, sur la base un peu du modèle freemium, c'est-à-dire que tout le monde peut s'inscrire gratuitement pour présenter ses services, et ensuite on va pouvoir proposer aux commerces qui veulent être mis en avant, gagner en visibilité et surtout être accompagnés par leur ambassadeur local. Donc c'est un abonnement mensuel qui permet à l'ambassadeur d'avoir une rémunération.
Et là, Nathalie va dire, on n'a toujours pas le prix, il est bien gentil de me couper la parole pour ne pas le donner. 30 euros par mois, c'est ça ?
Exactement.
Bon. C'est beaucoup, je trouve.
Alors, c'est moins d'un euro par jour et ça permet vraiment d'avoir un humain en face de soi et un interlocuteur pour être accompagné. Donc
Vous m'avez convaincu.
Ça reste très accessible.
Vous êtes présent dans quel territoire ?
Alors aujourd'hui, on est essentiellement présent en Loire-Atlantique, Morbihan, Ille-et-Vilaine, et aujourd'hui, on est en train de s'ouvrir au niveau national.
Olivia Grégoire, vous êtes notre... Allez, on va dire, allez, voilà, vous êtes le coach du jour, enfin, de cette séquence.
Je viens d'être très bien coachée.
Quel regard portez-vous sur Wicker, sur ce réseau local qui a pour but de dynamiser les territoires.
Alors déjà, j'ai appris quelque chose, parce que je ne savais pas que le Caire de WeCaire était le Caire breton.
Ah ouais, là, il fallait le trouver. Hein.
Un petit gourquet-ménou, comme on dit chez les Bretons. Bravo, mes félicitations. C'est pas anodin, vous venez de citer le Morbihan parmi les territoires où vous vous développez. Dire quand même à vos auditeurs qu'au nord de Nantes, si on m'autorise, à partir, enfin en Bretagne en l'occurrence, vous avez le cœur de l'ESS français, hein, c'est la locomotive du pays, la Bretagne. Vous avez,
Il y a un particularisme régional ?
Il y a en tout cas une réalité régionale qui est liée à l'histoire. J'engage ceux que ça intéresse à relire le pourquoi cette économie sociale est si forte dans l'Ouest, et notamment en Bretagne, pardon. En l'occurrence, il y a tout un mouvement historique dans les années 50 du siècle passé, avec les Jocs, les Jacques, les jeunesses ouvrières chrétiennes, les jeunesses agricoles chrétiennes, qui en l'occurrence se sont beaucoup développées en Bretagne, où il y a énormément de territoires ruraux aussi, donc beaucoup de coopératives agricoles, et donc beaucoup d'acteurs de l'ESS. C'est un territoire qui est très inspirant, et le premier de France en matière d'ESS. Pas étonné que WeCare vienne donc de la terre bretonne.
Et un petit coup de main, vous lui trouvez un petit coup de main ?
Alors oui, moi j'ai envie de dire tout l'enjeu maintenant de WeCare, et ça a été bien dit par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris juste avant moi, c'est que ça vient du terrain, ça vient du réel, c'est une force. L'enjeu maintenant, c'est de passer à l'échelle, c'est-à-dire à partir de votre exemple de terrain.
Ça veut dire quoi, passer à l'échelle ?
Passer à l'échelle, ça veut dire c'est présent dans 3, 4 départements, régions. Aujourd'hui, j'imagine que votre objectif, c'est d'arriver à 10, 15 régions et de développer WeCare sur toute la France. C'est le grand enjeu, si je peux faire le parallèle, de l'économie sociale aujourd'hui. On a des acteurs qui sont très puissants, très utiles et hyper efficaces en termes de solidarité dans certaines régions. Et il faudrait que l'État les aide. Et donc j'ai mis en place des dispositifs pour que, avec les contrats à impact, l'État puisse vous aider à partir de ce que vous faites en matière d'impact social, d'accompagnement social. Et l'État, en fonction de l'impact qu'ils sont capables de démontrer au plan social, c'est-à-dire WeCare dit « je suis capable d'accompagner 200, 300 personnes, que dis-je, dans le cadre de leur déploiement, dans le cadre de leur mobilité », eh bien, si vous parvenez à obtenir les résultats que vous vous fixez, c'est l'État qui prend à sa charge l'investissement pour déployer WeCare dans d'autres régions de France. Donc les contrats à impact, comme je dois aller vite, je conseille à ceux que ça intéresse de le taper sur l'Internet, comme on dit. Il y a pas mal d'infos. Et je trouve intéressant que des structures comme WeCare regardent, ça vous permettrait de bénéficier d'un soutien d'État pour pouvoir dupliquer l'expérience dans toutes les régions de France.
Dylan, avant de nous séparer, vous avez besoin d'argent en ce moment ?
Alors aujourd'hui, surtout notre objectif, c'est d'étendre la zone, donc en accueillant des nouveaux ambassadeurs. On vise à peu près 3000 ambassadeurs au niveau national.
Donc élargir la zone, mais pas d'argent pour l'instant.
On prévoit un deuxième tour de table, mais plutôt 2022, parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas forcément besoin.
Bah, vous reviendrez nous en parler alors. Merci à vous, Dylan Dé. Vous êtes le fondateur de WeCare, un réseau local qui dynamise les territoires.
Et si vous voulez comme ça venir présenter votre entreprise, eh bien c'est très simple, il n'y a qu'une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr, et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Olivia Grégoire, notre grand témoin du jour, vous êtes la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. On va parler recrutement maintenant, si vous le voulez bien.
Europe 1.
Et il est 13h53.
À suivre demain, un emploi. Comme chaque vendredi, on a des offres d'emploi pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail.
Allez, 50 aujourd'hui. Et on vous dit où dans un instant. Et la France bouge toujours en direct avec notre témoin du jour, Olivia Grégoire, qui est la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable.
Et demain, un emploi. Comme chaque vendredi, on soutient et accompagne les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi dans cette période compliquée. Aujourd'hui, Emmanuel ?
On a 50 postes à pourvoir.
Bonjour Clément David.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Padoc. Padoc est une entreprise qui fait du cloud. Elle existe depuis 2 ans, entreprise parisienne. Vous travaillez, vous avez 50 salariés au total. Et aujourd'hui, si vous êtes en direct dans la France Bouge, c'est parce que vous avez 50 postes à pourvoir, là, à nous proposer. Lesquels ?
Alors, on va avoir beaucoup de postes d'ingénieurs cloud, des gens qui montent des infrastructures sur le cloud. On a des gens qui font que ça, ou alors des gens qui nous rejoignent et qui avant faisaient un autre type d'informatique et qui veulent évoluer vers ces technos. Puis on a toutes les fonctions support d'une boîte, c'est-à-dire qu'on recherche des sales, en sortie d'école de commerce, par exemple, on a beaucoup de postes de gestion de projet. On recrute des gens qui vont faire, alors en start-up, on dit talent acquisition, mais du recrutement, ce genre de choses. En passant de 50 à 100, de toute façon, je vais vous dire, on a besoin de toutes les bonnes volontés.
Mais du coup, c'est des gens qui sont quand même assez formés, parce que je pense au cloud ou à la cybersécurité. Là, c'est des gens qui sortent d'école d'ingénieur, qui ont 1 ou 2 ans d'expérience.
Ouais, il y a des gens qui sortent d'école d'ingénieur et qu'on va recruter, qu'on va former sur les technos. C'est des gens qui ont un peu fait de l'informatique en stage, mais qui ne sont pas encore vraiment professionnalisés. Mais en fait, s'ils sont bien câblés et qu'ils captent vite, c'est des ressources tellement rares sur le projet que nous, on investit beaucoup sur la formation. Et puis, s'ils ont un ou deux ans d'XP, c'est bien, mais c'est pas forcément obligatoire. Et pareil pour la gestion de projet, c'est plutôt des gens qui sortent d'école de commerce. On propose des postes directement en sortie d'école. Moi, je recherche pas des gens côté business qui savent déjà tout du cloud. Je vais les former. En revanche, des gens qui ont envie de bosser dans une startup et de faire de la gestion de projet et de s'impliquer, du moment qu'ils ont envie, nous, on les forme aussi, quoi.
Là, c'est impressionnant de doubler d'effectifs seulement là, au bout de deux ans, de passer de 50 à 100. C'est que vous avez, pardonnez-moi l'expression, bénéficié de la crise. Là, dans le cloud, ça explose.
Ouais, il y a un peu de ça. La croissance du cloud l'année dernière dans le monde du cloud, c'est 35%. Donc on a beaucoup de chance épargné par la crise. Il y a même beaucoup d'entreprises qui en ont profité pour migrer vers Amazon, vers OVH, vers Google. Donc ouais, nous on est en plein dedans. Moi j'ai un carnet de commandes qui est largement plus important que ce à quoi je peux répondre aujourd'hui.
Et voilà, et Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable, vous entendez ce que vient de nous dire Clément David, hein, qui recrute, qui dit qu'il a un carnet de commandes qui a doublé.
Bah, je lui souhaite vraiment que ça continue, à doubler. Et que les embauches et les recrutements dont vous avez la belle idée de les proposer aujourd'hui soient vite pourvus. On a tant de mauvaises nouvelles et tant de choses qu'on aime mettre en avant qui nous séparent. Je suis contente d'entendre des entrepreneurs engagés.
Et vous aussi, vous recrutez. Hein, c'est important, on va le rappeler. Hein, vous en avez
oui,
parlé tout à l'heure.
Mais moi, je fais partie d'un gouvernement. Je n'ai pas la charge de mon entreprise, contrairement à lui. Et il est plus courageux que moi encore. Donc, bravo. Et... j'espère que ça va encore doubler. Vous avez des problèmes que je vous souhaite de continuer à avoir. C'est des problèmes...
Est-ce que vous pensez que, là vous le disiez tout à l'heure, je crois que c'est 40 000 postes qui étaient disponibles. Alors, est-ce que vous pensez que ça va aussi se renforcer parce que l'économie sociale et solidaire, ça répond à une aspiration très forte de la part des jeunes notamment. C'est avoir du sens. Oui. C'est-à-dire que on le disait tout à l'heure, le but lucratif n'est pas obligatoirement la première des réponses, mais le sens de savoir pourquoi on travaille et pour qui. C'est une des valeurs de l'économie sociale, c'est même la valeur cardinale.
Vous avez tout dit, si je devais résumer, contrairement à l'économie classique, qui est une économie de la valeur, lucrative, financière souvent, l'économie sociale et solidaire, c'est une économie des valeurs humaines, des valeurs solidaires, et qui de plus en plus, hein, je vous rappelle que 7 jeunes sur 10, et c'est pas une mode, ça n'arrive pas depuis un an ou deux, ça fait des années que c'est en croissance, 7 jeunes sur 10 qui arrivent sur le marché du travail, arbitre en faveur du sens et de l'engagement de leur job au quotidien, plus qu'en faveur de la rémunération. Donc moi j'ai envie de dire, vous êtes une association, vous m'entendez là maintenant, vous avez besoin de ressources. Ou vous êtes un jeune ou un moins jeune qui est assez éloigné de l'emploi, vous avez besoin d'un job. Regardez les parcours emploi compétences, vous pouvez en parler pour ceux qui cherchent un job à Pôle emploi. Vous êtes une association, vous pouvez trouver toutes les infos en ligne. Ce sont des emplois qui sont sponsorisés, subventionnés par l'État. Il y en a 40 000 pour le secteur non marchand à pourvoir dans l'année qui vient, à vous de jouer.
Et nous, les offres d'emploi, on peut les retrouver sur notre carte interactive par région sur europe1.fr. Merci à vous, Olivia Grégoire, d'être venue dans La France Bouge. Je rappelle que vous êtes la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Merci à vous.
Et lundi, on parlera d'un tout autre sujet puisqu'il ne s'est jamais vendu autant de vérandas qu'en ce moment en France. Ben, nous, on a bien évidemment choisi le leader français. C'est le patron d'Akena qui sera avec nous lundi.
Eh bien, restez sur Europe 1 à lundi. Dans un instant, Christophe Ondelat. Ce sera juste après le flash de 14h.
C'était La France Bouge avec la Caisse d'Épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.